y va ?
Bien.
Eh bien, merci Claudia qui me donne le signal que je peux y aller. On y va. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons une petite modification dans nos façons de faire. Nous avons un invité, un monsieur qui s'appelle Bernard Jeck. Bernard Jeck, ça s'écrit J-A-E-C-K. Monsieur Bernard Jeck, qui est à la fois un psychanalyste, un comédien, un poète, et il va vous donner quelques preuves de ce qu'il est capable de faire tout à l'heure, lorsque je lui passerai la parole, après notre première demi-heure, qui sera consacrée... Alors, chers auditeurs, vous savez que nos émissions, jusqu'à la présidentielle, je vous ai prévenu déjà ces derniers mois, eh bien, seront consacrées à la préparation de la présidentielle, précisément, et à la réception de candidats à l'élection présidentielle. Nous en avons déjà eu, notamment Monsieur Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan. Nous en aurons comme ça une série jusqu'à la présidentielle pour les faire plancher sur la langue française et non seulement la présidentielle elle-même, mais ce qu'un président de la République, naturellement, et notamment eux, si l'un d'entre eux est élu, eh bien, peut s'engager à faire pour soutenir cette langue française qui est en grande difficulté, à l'heure actuelle, qui est attaquée de partout, y compris par l'État. Et voilà. Donc, nous avons aujourd'hui un tournant, si j'ose dire. Un tournant, parce que jusqu'à présent, j'ai commencé à saisir tous les candidats à l'élection présidentielle, par écrit, bien sûr, par courriel, enfin bon. Et puis, en leur proposant des choses, en leur suggérant, les incitant, etc. J'ai pas eu beaucoup de réponses encore. J'en ai eu quelques-unes tout de même, dont deux très encourageantes, et une qui s'est vraiment réalisée, puisque M. Nicolas Dupont-Aignan non seulement est venu dire ici ce qu'il voulait faire s'il était président, il y en a qu'un qui sera président, et puis tous ceux qui sont, comment dirais-je, pas parmi les grands, n'ont finalement aucune chance, hein, mais bien. Mais l'essentiel, c'est que leur programme, pour moi l'essentiel, c'est que leur programme soit forcément publié, ils le publieront, et que dans cette publication de programme, eh bien, il y ait naturellement leur engagement pour la langue française et un engagement aussi ferme, vigoureux que possible. Bon, alors aujourd'hui, après avoir commencé tout ça, fait tout ça, je me suis dit, bon, ben j'ai déjà employé beaucoup d'arguments comme ça individuellement avec tel ou tel candidat en fonction de ce qu'il est, parce que naturellement je fouillais dans l'Internet et puis un peu partout pour savoir comment on pouvait les séduire vraiment pour cette affaire, parce que c'était véritablement une tentative de séduction. Parce que, vous le verrez dans ce que je vais vous écrire tout à l'heure, toutes les élites qui se présentent à l'heure actuelle, à de rares exceptions près, ont baigné dans un bain qui était complètement étranger, je dirais, à la défense de la langue française, à la culture française, à nos fondamentaux, à nos fondamentaux. Il y a eu tout un demi-siècle, mais je vais vous le dire dans un instant, justement, parce que j'ai fait, et je vais vous le lire maintenant, un narratif qui sera vraiment la pièce maîtresse que je redistribue à tous ceux que j'ai déjà saisis, naturellement, et puis qui servira aussi pour la presse, pour que un narratif aussi objectif et aussi en même temps engagé, vif que possible, et donnant envie, si possible. Voilà. Alors, ce narratif s'appelle, logiquement, « Langue française et sursaut de la France dans la présidentielle 2027 ». Parce que nous l'espérons tous, chers auditeurs, eh bien, il faut que la présidentielle de 2027, dans le chaos que nous connaissons maintenant, dans les difficultés profondes dans lesquelles on nous a plongés, le système nous a plongés, aidé par de hauts collaborateurs français, eh bien, il faut que nous en sortions. Donc, langue française et sursaut de la France dans la présidentielle 2027. Voilà. Alors, je commence. Le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, vous connaissez, chers auditeurs, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, nous l'avons créé, nous, les associations, le 18 juin 2020. 18 juin, c'est une date très gaulliste. C'est avec un communiste que j'ai créé ce Haut Conseil, un communiste rénovateur, mais très patriote, ou est très patriote, attention, parce qu'il y avait, de toute façon, il y avait beaucoup de communistes qui restaient patriotes. Un communiste rénovateur et patriote qui s'appelle Georges Gastaud, et puis le gaulliste que je suis. Bien, tous deux créateurs et présidents d'associations pour le français. Voilà, c'est écrit là dans mon. En résumé, dans le narratif que je vous lis. Alors, et je renvoie aux annexes sur nos actions, sur les actions du Haut Conseil, à la liste de nos 39 associations pour le français que nous avons maintenant, n'est-ce pas, et 200 personnalités, membres, personnalités de tous bords, bien sûr, parce que c'est transparti, comme vous le savez déjà, chers auditeurs. Bien. Alors, le Haut Conseil a saisi tout le monde, je viens de vous le dire, il leur joint le présent narratif pour les amener à prendre dans leur programme présidentiel l'engagement prioritaire de réintroniser la langue française. Réintroniser la langue française. Eh bien oui, pourquoi réintroniser? Eh bien justement, parce que ça veut dire qu'il faut retrouver, alors je reprends mon texte, donc de retrouver ce qui fut depuis François Ier, pendant 5 siècles, chers auditeurs, 5 siècles jusqu'à presque aujourd'hui, jusqu'à, mais je vais vous dire la date tout de suite, jusqu'à, il y a une date brutale qui est 1974, la mort de Pompidou et l'élection de Giscard d'Estaing, jusqu'à 1974, donc, ce qui fut en tête de la politique intérieure et de la politique extérieure de tous nos régimes, chers auditeurs. Et là, un petit commentaire. Tous nos régimes, oui, alors naturellement les rois, bien sûr, François Ier et tous ceux qui l'ont suivi, les rois, les demi-rois, les tout ce que vous voudrez, mais aussi les républiques. Et je dirais aussi la première république, la révolution a été très active dans le domaine de la défense d'une part, de l'expansion en France et de l'expansion à l'étranger de la langue française. Je vais vous citer un petit exemple tout à fait révélateur. Nous sommes sous la Convention, nous sommes en 93, en pleine Convention. Nous avons un envoyé à Istanbul, Constantinople, si vous préférez, pour certains d'entre vous, dans l'Empire turc, dans la sublime porte de l'époque, et c'était le sultan Soliman le Magnifique qui était là au temps de comment dirais-je, des capitulations dont je vais vous parler dans un instant, sous François Ier. Mais là, en 93, nous avions un représentant auprès du sultan. L'Empire ottoman était encore grand. Il avait diminué beaucoup par rapport à ce qu'il était en 1536 lors des capitulations dont je vais vous parler. Mais voilà, notre envoyé, sachant naturellement, puisque la France était protectrice des chrétiens d'Orient et qu'elle avait beaucoup de prêtres français dans l'Empire ottoman, qu'est-ce que je fais avec ces Français qui sont des prêtres, alors que vous, là-bas, enfin, il ne disait pas ça comme ça, notre envoyé, bien sûr, c'est un diplomate, hein, bien, mais il se demandait comment faire, quelle attitude, il reçoit une réponse extraordinaire de la Convention, très brève, militaire, presque, de la Convention. Le citoyen Semonville, c'était son nom, le citoyen Semonville n'oubliera pas qu'en Orient, le catholicisme, c'est la nation. C'est extraordinaire, non? Extraordinaire. Songez à la gauche d'aujourd'hui. Vraiment, enfin, sous la Convention, on continuait à donner des subventions aux écoles religieuses privées sur les fonds secrets de l'État. Je le sais parce que, bon, vous le savez, chers auditeurs, j'ai fait une thèse là-dessus sur l'action culturelle de la France dans le monde. Alors, j'ai fouillé partout. Bien, voilà. Alors, je termine. Vous avez la belle phrase. Alors, tous nos régimes. Alors, maintenant, je dis à commencer par l'ordonnance en 1539. De Villers-Cotterêts pour l'unité nationale. Mais il fallait, avec l'aide de la langue française, il y avait déjà une unité française. Les Bretons se battaient en breton pour le roi de France, les autres aussi, ceux qui étaient déjà là, il n'y avait pas encore les Alsaciens, etc. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh bien, pour renforcer l'unité nationale, il fallait, et c'était un facteur politique, mais primordial. C'était en tête de la politique intérieure, hein, l'unité de la France par la langue française répandue le mieux possible, si possible, bien sûr, le mieux possible dans tout le pays, voilà, pour l'unité nationale. Et ensuite, par le traité que j'annonçais tout à l'heure, des capitulations. Qu'est-ce que ça veut dire, les capitulations? C'est un traité avec la Sublime Porte, en 1536, avec Soliman le Magnifique, que je vous citais tout à l'heure, le grand sultan. L'Empire ottoman de l'époque, c'était immense. Il avait notamment tous les pays autour de l'Arabie, etc. Il avait le Maghreb, sauf le Maroc. L'Empire ottoman s'arrêtait aux frontières marocaines. Bien, cet empire immense, les capitulations... ni l'Empire ottoman ni François Ier ne capitulaient au sens actuel du terme, bien sûr. Les capitulations, c'était des chapitres, tout simplement, capitulé, c'est latin, hein, des chapitres, mais des chapitres de loi du régime turc, de la Turquie, donc de la Sublime Porte, qui réglaient les questions concernant les étrangers. Donc, il y avait une capitulation, enfin des capitulations particulières, signées avec donc le roi de France, François Ier, pour régler la question des Français dans la Turquie et les relations avec des Français. Voilà. Les capitulations, c'était ça. Eh bien, que disait un chapitre d'une énorme importance dans ces capitulations avec la Sublime Porte? C'était que le sultan donnait à la France l'exclusivité de la protection des chrétiens d'Orient. C'était immense à l'époque. Imaginez, ça poussait le français, parce que ces religieux, en plus, ils faisaient des écoles, certes, ils apprenaient la langue du pays, etc., pour diffuser leur religion catholique. Bon, et il se trouvait que ces religieux étaient très nombreux, et le sont devenus beaucoup plus par la suite, parce que la France a toujours été... La France, la fille aînée de l'Église, n'oubliez pas, pendant très longtemps, a été une pourvoyeuse majoritaire dans le monde d'envoi, donc une pourvoyeuse de missionnaires chrétiens et notamment de missionnaires catholiques. Elle a même ensuite envoyé, bien qu'elle ne fût pas à l'époque, au XIXe siècle, une pourvoyeuse forte de protestants, mais il y en avait quand même, elle a aussi envoyé des missionnaires protestants à partir de 1822. Voyez, c'est ça la France, avec l'idée de mission. Et assez très curieusement, pour vous faire un commentaire supplémentaire, c'est inhérent à la France, les idées donc de protection des chrétiens, de faire en sorte que le christianisme soit développé partout, notamment, bien sûr, d'abord en France, ça l'était, mais ensuite un peu partout si possible, en aidant les missions. Eh bien, la France a poussé la chose jusqu'à, lorsqu'elle a, pas abandonné, mais lorsqu'elle ne s'est plus concentrée sur la chrétienté, sur le christianisme, et en particulier sur le catholicisme, elle s'est mise aussi à faire des missions avec d'autres. C'est en France qu'a été créé en 1860, sous Napoléon III, l'Alliance israélite universelle pour protéger à partir de la France, là aussi, pour la France protectrice, hein, les Juifs qui étaient dans, eh bien, dans les pays où la France agissait, voilà, et où la France pouvait agir, comme elle le fait longtemps au Levant, rappelez-vous le Liban, etc., rappelez-vous tout ça, bien, les croisades au début, etc., bien, donc, l'alliance israélite universelle. Et ensuite, on est passé d'une manière plus laïque, mais toujours pour l'action culturelle de la France dans le monde, à créer en France l'Alliance française en 1883. Alliance française, c'était des comités, avec des comités faits dans les pays, pas par des Français forcément, il peut y avoir des Français dedans bien sûr, il y en avait souvent, et même des gens qui étaient dans nos ambassades et qui aidaient à se créer ces comités-là, mais des comités étrangers, vraiment étrangers, présidé par des étrangers, des comités pour diffuser le français dans le pays où ils étaient. Voilà, Alliance française. Et allons plus loin, lorsqu'on est arrivé dans l'époque ultra-laïque du début du XXe siècle, les années 1900 et quelques, en 1902, tout naturellement, la France a créé la mission laïque. La mission laïque qui s'est développée. Alors, elle était plus difficile... C'était plus cher de trouver des gens à envoyer parce qu'il fallait les payer au tarif des professeurs et des trains. C'était pas la gratuité des religieux. Mais enfin, tout de même, ça s'est bien développé. La mission laïque a été, et là, des lycées français de la mission laïque, notamment au Liban. Bon, très bien, voilà. Fin de ce commentaire-là pour cette période importante à comprendre. Voilà, dans l'immense empire ottoman. Et puis tout ça s'est développé, comme je viens d'ailleurs de vous le dire, en fait, en détail, jusqu'à l'apothéose de politique intérieure et extérieure culturelle de 1958 à 1974. Parce que ça a été une grande époque pour la France, ça l'a été surtout, je dirais, pour l'action culturelle de la France dans le monde. De Gaulle puis Pompidou ont fait énormément pour développer les lycées français à l'étranger, toutes les universités nouvelles en français à l'étranger, les départements de français à aider dans des universités à langue étrangère, etc. Bon, voilà. Une politique. Voilà. Bien. 1974. Que se passe-t-il en 1974 ? Et une rupture brutale, énorme, qui est passée presque non repéré, non ressenti, parce que on était tellement habitué à la retour de la prospérité, de la grandeur sous De Gaulle et sous Pompidou, que ma foi, bon, on voyait pas trop de. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Giscard d'Estaing arrive. La première chose qu'il fait, c'est une conférence de presse moitié en anglais. Je reprends mon texte. Qui symbolisa la détronisation du français et l'occultation de nos fondamentaux civilisationnels. S'ouvrit en effet chez nous, pour le demi-siècle 1974-2026 dans lequel nous baignons encore, le règne, j'appuie là-dessus, le règne du mondialisme matérialiste. Et nos candidats, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont tous baigné là-dedans, nos candidats à la présidentielle. Mondialisme matérialiste, d'une revassalisation du pays. De Gaulle nous avait libérés de l'Empire, de la vassalisation aux États-Unis en 58. Ça recommence immédiatement avec Giscard, avec un peu plus d'argent quand même. Il n'y a plus l'obligation pour les présidents du Conseil de la 4e République d'aller, dès qu'ils arrivaient au pouvoir tous les 6 mois, faire la manche aux États-Unis. Dans une soumission totale, bon, ou presque. Bon, et puis donc la revassalisation du pays et surtout une offensive de substitution de l'anglais au français. Avec, c'est un autre grand remplacement, hein, on parle du grand remplacement. J'ai voulu, parenthèse encore, mais parenthèse qui est tout à fait actuelle, dans notre campagne du Haut Conseil, pour essayer de gagner tous les partis, si possible, à notre affaire, nous avons naturellement saisi les extrêmes. Les extrêmes ça a bien marché, j'y reviens dans un instant, pour la gauche. Très curieux d'ailleurs. Mais vous allez voir pourquoi. Mais surtout, ça a très mal marché avec l'extrême droite. Pourtant, nous sommes ici dans une radio qui parle beaucoup à des gens d'extrême droite aussi. Moi, je suis gaulliste, on le sait. Mais ça n'a pas marché avec l'extrême droite. Aussi bien Marine Le Pen que Jordan Bardella, aussi bien Éric Zemmour que Sarah Knafo, ne nous ont pas répondu. Vous imaginez nos arguments, etc. Enfin, puis avec des choses comme ce que je viens de vous lire, des choses quand même importantes pour la France. Vous le sentez, vous le savez, vous. Bien. Eh bien, non, rien. Pourquoi ? Il s'est passé quand même quelque chose qui a empêché ces gens de considérer que le grand remplacement linguistique valait la même mobilisation que le grand remplacement autre, religieux et démographique. C'est évident. Grand remplacement là, balayé, ignoré. Et ce demi-siècle a débouché à partir de 2017, là je reprends mon texte, à part parce qu'il est court mon texte, hein, je vous fais des tas de commentaires là, mais je crois que c'est le commentaire, c'est encore le plus vivant, non ? Bon, allez, ce demi-siècle a débouché à partir de 2017, sur le démantèlement illégal mais organisé par l'État lui-même du statut du français. Je vous en ai déjà parlé. Donc je suis très bref, là, fin en 2020 de la langue du travail dans l'Union européenne, le français langue de travail dans l'Union européenne, ils avaient déjà beaucoup diminué. Mais il restait une des trois langues principales de travail, derrière bien sûr l'anglais. L'anglais avait tout croqué, enfin beaucoup déjà, beaucoup pardon, pas tout justement. Mais ça disparaît malgré le Brexit, alors même que l'Angleterre fichait le camp de l'Union européenne, vous voyez. Bon, c'est énorme de faire ça, de laisser faire ça pour un président de la République. Il n'a pas protesté, loin de là, contre Ursula von der Leyen, qui avait fait ça toute seule, comme une grande. Un coup d'État, d'ailleurs, son premier coup d'État, elle en a fait d'autres depuis lors, mais son premier coup d'État était précisément contre la langue française, avec la complicité ou l'ignorance ou le laisser-faire simplement de tout le Conseil européen. Une décision comme celle-là, ça dépendait du Conseil européen. Eh ben non, madame puissante, impératrice, fait ça toute seule comme une grande. Voilà, un coup d'État. Bon, donc il y avait ça, puis c'était pas tout. Le président a laissé faire, mais le président a fait plus grave. Les Jeux Olympiques en 2024, alors que la délégation générale aux langues françaises, à la langue française et aux langues de France, qui est au ministère de la Culture, c'est une délégation importante pour justement le français surtout, bien, et qui dépend donc directement en fait du président de la République, eh bien ce conseil, cette délégation à la langue française, au printemps 2024, l'année de l'été 2024 des Jeux Olympiques, au printemps, la presse annonce que vous allez voir triomphalement, n'est pas les gens de la délégation écrivent des articles dans la presse, vous allez voir ce que vous allez voir, la langue française qui, là aussi, était abîmée un peu, beaucoup même, dans les Jeux Olympiques, alors qu'elle était la langue principale, la langue officielle, hein, et faisant foi des Jeux Olympiques. Et en plus, là, c'est pour ça qu'on nous disait, vous allez voir ce que vous allez voir, et en plus, comme en 2024, la langue du pays hôte est précisément le français, forcément, bien, eh bien, il y a deux raisons essentielles pour lesquelles vous allez voir refleurir l'anglais partout, non seulement sur le plan oral, mais sur le plan écrit, dans ces Jeux Olympiques. Résultat, l'été arrivé, rien de tout ce qui était écrit, y compris les noms des épreuves, alors même que les commissions de terminologie avaient fait leur travail pour traduire les nouvelles épreuves qui étaient en anglais, évidemment, parce que tout se faisait en anglais, bien, pour tout ce qui était nouveau, Eh bien non, non, même pas été traduite, même pas été traduite. Et puis tous les résultats annoncés, annoncés par écrit, tout ce qui figurait à l'écran, le milliard de téléspectateurs qui suivaient les Jeux Olympiques, il y en avait un milliard, y compris en France, y compris dans les pays francophones, bien sûr, n'a eu droit qu'à une présentation écrite en anglais. En anglais, pas traduit. Voilà, alors vous voyez, c'est ça. On avait fait une lettre ouverte au président de la République là-dessus, de vifs reproches en termes très diplomatiques, mais dans laquelle, vous en souvenez pour ceux qui m'ont écouté là-dessus, on parlait de forfaiture et de trahison. Eh bien oui, des mots très forts, dans une lettre très diplomatique, très remerciant par ailleurs, etc., pour un certain autre truc. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Alors ensuite, donc maintenant, messieurs Dupont-Aignan, Philippe de Villiers, Saforcada, David Saforcada et quelques autres, c'est des candidats, ou presque candidats, comme Villiers, il laisse, comment dirais-je, peser la possibilité, flotter la possibilité d'être candidat. Mais enfin, voilà. Il a dit qu'il ne le ferait pas, mais voilà, on verra. En tout cas, je les considère comme des candidats. Dupont-Aignan, De Villiers, Saforcada et quelques autres ont déclaré urgente, et quelques autres, mais des non-candidats, ceux-là, les autres, hein, ont déclaré urgente la sortie de l'Union européenne par la France. Très bien. Mais les trois premiers, ceux que j'ai cités nommément là, ils proclament maintenant aussi, et c'est ça un progrès remarquable par rapport aux élections précédentes, les trois premiers proclament que le maintien en vie de la France exige aussi, ça, c'est le terme de M. de Villiers, refrancisation. Il faut dire que saisi souvent, comme vous le savez, mais il a parlé de réintronisation du français, mais ça veut dire la même chose, la refrancisation. Refrancisation. Bien. Voilà, nos élites, vraiment, doivent être, les autres doivent être réveillées, parce qu'elles baignent dans l'engourdissement organisé qui a été, c'est ce que j'écris là en reprenant mon texte, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ce qui s'est passé à partir de 1974, sujette à l'engourdissement organisé du demi-siècle mondialiste. Bien seul, c'est là que je fais une parenthèse avec la gauche, qu'il faut quand même signaler parce que c'est remarquable, mais bien seul, Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2017, pas cette fois-ci, mais, enfin il est cette fois-ci aussi, mais candidat en 2017, pas maintenant, enfin plus maintenant dans ce que je vais dire, qui signa et publia à ses frais une charte de la francophonie. Lui, il est cultivé, il avait compris qu'il vaut mieux, lui aussi, défendre la langue française. Il regarde maintenant ailleurs, mais il l'avait fait d'une manière remarquable en 2017. Ça veut dire que c'est du consensus au fond. C'est un fond de France, ça. Alors, je reprends mon texte. Le Haut Conseil international a donc prié notamment messieurs Onfray et De Villiers, à nouveau, qui a écrit la refrancisation, il a même dit la refrancisation ou la mort, sont des grands sonneurs de réveil de la France et bien d'autres personnalités conscientes des enjeux et en mesure d'influencer des candidats, d'intervenir de tout leur pouvoir, afin que les candidats inscrivent en priorité, je l'ai dit, dans leur programme d'élu éventuel, bien sûr, la refrancisation de la France et la réintronisation de sa langue, seul terrain de consensus transpartisan. C'est le pari que nous faisons. C'est un énorme pari de dire il n'y a plus de De Gaulle, comme dans d'autres périodes de notre histoire, il n'y a plus de Jeanne d'Arc comme en 1429, il n'y a plus de Bonaparte comme en 1798, dans des périodes très difficiles de la France, il n'y a plus de De Gaulle en 1944 et en 1958, ou même en 1940 d'ailleurs, bien sûr. Eh bien, voilà, il y a autre chose, eh bien, il y a le ressort de quelque chose qui peut faire le consensus pour que les Français se disent « Ah mais tiens, ça se réveille, on peut en fait reparler de la France !» Eh bien, c'est parler de la langue française et c'est faire ce que je vous ai dit. Et j'ajoute dans mon texte, il y a des jeux, écoutez bien, on va avoir terminé là très bientôt, pour passer la parole à notre invité. Or, c'est écrit en gros, bien des mouvements et évolutions récents viennent encourager, justifier le sursaut français. Alors il y a six choses. Bref, il y a deux lignes pour chacune. Écoutez bien. 1. On commence par nous. Le peuple français grondant ne veut plus subir le chaos actuel, la vassalisation, l'occultation de ses fondamentaux et de sa langue nationale. 2. L'Union européenne a illégalement imposé l'anglais, dérive dictatoriale de Madame von der Leyen, elle va devoir rendre, c'est ce qui se dessine un peu à l'heure actuelle, hein, elle va devoir rendre le pouvoir aux nations. 3. Les États-Unis s'enfoncent dans leur mondialisme matérialiste qu'ils nous ont imposé pendant la période indiquée. Ils ne protègent plus l'Europe, c'est la nouveauté. Bien, c'est pas vraiment nouveau, dans le fond, on doutait bien qu'on serait protégé, qu'ils risqueraient une bombe atomique chez eux pour la France ou pour l'Allemagne s'ils étaient attaqués par la Russie ou par d'autres. Bon, enfin bref, maintenant c'est clair, elle couvre plus. Bien, très bien, couvre plus. Elle se remet, donc l'Europe, elle, se remet à penser, et à penser par ses nations. Parce que l'Europe elle-même ne pense pas beaucoup. 3. La Chine ferme chez elle, et oui, ferme chez elle nombre de formations en anglais. Et surtout, suivie par la Russie et par les BRICS, elle affaiblit l'empire ennemi, elle ne pense qu'à ça, évidemment, elle affaiblit l'empire américain ennemi, son ennemi, en partie le nôtre, en s'attaquant partout à la dollarisation. Parce que l'une des sources de grande puissance des États-Unis, c'est la puissance du dollar. Ils peuvent se permettre des déficits énormes, ils n'ont pas à payer. Voilà. Elle menace donc le règne de l'anglais. 5. Petite chose, petite mais révélatrice. En Afrique, en Angola, lusophone, c'est-à-dire ils parlent le portugais bien sûr, voisin des deux Congos francophones, c'est juste au sud. Le gouvernement vient de rendre le français obligatoire aux primaires. Tiens, ben c'est nouveau. 6. Et on termine. Madame Mushiki Wabo, la secrétaire générale rwandaise de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, nous annonce dans son rapport que le français compte en 2025, tenez-vous bien, 396, et c'est sérieux, hein, c'est les études sérieuses, publiées tous les ans, c'est jamais critiqué, c'est sérieux, 396 millions de locuteurs, ça progresse et ça progressera encore si l'Afrique ne rejette pas complètement la langue française, mais c'est énorme. 396 millions de locuteurs en 2025, passant ainsi en 2025 du 7e au 4e rang des langues du monde. Elle n'a jamais été la première, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a l'hindi, il y a le chinois, bien sûr, dans ses variétés. Et il y a, bon, ce que vous savez, il y a l'anglais, il y a. Bon, voilà, c'est tout, c'est terminé. Chers auditeurs, vous êtes au courant de ce qui se passe, vous êtes au courant de ce qui va se passer dans les... Notre séance prochaine sera précisément avec un candidat qui est Monsieur David Saforkada, président d'associations et de mouvements bonapartistes. Ben oui, il faut bien que le bonapartiste soit encore dans cette affaire où il y a tout le monde, ou presque tout le monde. Bon, bien sûr, il ne sera pas élu non plus, mais voilà. Alors, nous revenons maintenant à M. Bernard Jecq. Bernard Jecq, écriturie. Voilà, il m'avait fait un petit schéma de voilà. Alors, je l'interroge là-dessus. Et je lui ai dit, oui, il faut. Alors, il me disait des tas de choses avant dans des lettres. Ça a été très intéressant, d'ailleurs, correspondance avec lui. Hein, c'est un psychanalyste, je le rappelle, et un comédien et un poète. Eh bien, je lui ai dit, écoutez, oui, il y a des choses très bien que vous me dites là, mais il faut surtout que vous fassiez rire. C'est une sorte d'intermède, que vous fassiez rire ou que vous intéressiez aussi ou beaucoup nos auditeurs. Alors, eh bien, écoutez, voilà, je lui donne la parole. Il va vous réciter, pas vous réciter ou vous dire ou vous, enfin, écoutez-le.
Alors, merci, Monsieur Salon, de me recevoir. Effectivement, comme mon nom c'est
pardon,
Jacques.
Une seconde. Ah. Il y a un Bobino annoncé. Alors, c'est une annonce très courte par notre fabricante d'émissions.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Il va. Allez-y.
Alors, on recommence. Alors, merci, Monsieur Salon, de me recevoir. Effectivement, mon nom, c'est Jacques, et j'ai trouvé donc quelque chose d'adapté à ce que je propose sur scène, à savoir un slogan où j'écris « Pour que tu ris », et c'est une tuerie. Puisque, comme vous l'avez bien dit...
Pour que tu ris, R-I-E-S.
R-I-E-S. Effectivement, vous avez bien fait de porter mon attention à cette faute d'orthographe qui, partout, parfois, vient se glisser. Et sans la langue, vous l'avez bien dit au début de cette émission, eh ben, sans la langue, il n'y a que des corps. Et des corps, ça fait des corps quand on ne se parle pas. Donc, mon idée, bien sûr, de jouer sur scène, c'est de me montrer qu'on peut rire. Et c'est quelque chose qui vient associer le rire et le bon sens. Hein. Le bon sens, quand on est comédien, c'est pas la raison. Le bon sens, c'est celui qui fait du bien. Donc dans mon style, il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'absurdités et beaucoup de dérision de cette vie moderne que vous avez commentée, qui est un peu une vie matérielle, une vie dans les affres du discours capitaliste. Et donc le rire permet par l'association de la joie de passer un autre sens. Donc il y a de la poésie, il y a de l'absurde, il y a de la dérision et... Comme dirait Boileau, dans son art lyrique, il mieux vaut montrer par l'exemple que par des longs discours ce que cela veut dire. Alors, un texte qui m'est cher, c'est un texte...
Alors, allons-y.
Allons-y. Le texte qui est cher, c'est celui... parfois, on me demande, mais comment ça a commencé ? Eh bien, comment ça a commencé, monsieur Salon ? Mais figurez-vous qu'un jour, mon boucher, il rit tout le temps. Et d'ailleurs, il a appelé sa boucherie « ma chère boucherie ». Et il me dit, monsieur Jacques, vous qui êtes poète, allez faire donc un tour à Palais Royal, parce qu'il y a un truc pour vous. Alors je lui dis, merci monsieur. Alors je vais à Palais Royal et je sors de la bouche de métro par l'escalier. Et alors je débouche à l'air, comme ça, tirant la langue, tout essoufflé. Eh bien figurez-vous que ce jour-là, eh bien paf, je débouche face à une bouche. Très élégante et très souriante. Et vous savez ce qu'elle me dit, cette bouche ? Elle me dit, monsieur, c'est quand même pas bien de tirer la langue. Alors je lui dis, attendez, madame la bouche, c'est pas quand même pas bien de boucher le passage. Elle me dit, ça dépend des goûts. Bah, c'est-à-dire, oh, je suis la muse bouche. Ah bah je lui dis, bah, je comprends bien pourquoi mon ami m'a envoyé ici, je suis poète, je cherche une muse. Elle me dit, attendez, bah, je ne bouche pas avec n'importe qui quand même. Bah, comment ça ? Bah, quelles sont vos conditions ? Elle me dit, mais monsieur, il me faut Palais Royal, c'est pour ça que je suis ici. Alors, je lui ai dit, mais écoutez, essayez-moi. Mon expert comptable m'a dit que ma parole était d'argent. Et je vous assure, vous allez le voir, à la fin, je la ferme, mon silence est d'or. Eh bien écoutez, figurez-vous, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas eu d'autre choix que de se faire un peu de bouche à bouche. Et hop, elle est entrée dans mon palais. Et c'est comme ça que ça a tout changé et que ça a commencé cet univers de comédien-poète. Parce que figurez-vous, maintenant au restaurant, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je mets les bouchées doubles. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? J'avale quantité de bouche à la reine. Mais qu'est-ce qu'il se goinfre, celui-là? Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est juste que j'ai deux bouches à nourrir. Et je sais très bien que ça ne se voit pas quand on a plusieurs bouches à nourrir. Alors, figurez-vous, monsieur Salon, ça s'est répandu dans Paris, oh, comme une traînée de poudre. Bah, les gens, ils savent que j'amène la muse-bouche. Alors, dès qu'ils ouvrent la porte, ils me disent, allez, fais nourrir. Alors certains ou certaines me disent, dites, les paroles de votre bouche nous mettent l'eau à la bouche. Ça nous donne chaud, on voudrait boire certaines de vos paroles. Bah, figurez-vous que parfois, nos bouches s'attirent jusqu'à boire la même eau. Alors certains n'allaient pas croire non plus que ma bouche ne sait pas faire la fine bouche. Hein, vous qui êtes attentif à la langue française, non, elle est très attentive à la qualité de ce qu'on se met en bouche. Elle ne supporte pas les grandes gueules. Alors là, les gens ils disent, tiens, il fait la gueule. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est ma muse, c'est que je suis bouché. Et ma muse bouche, quand on est poète, eh ben, se refuse de faire bouche-trou des imbéciles. Alors là, faut y aller au tire-bouchon hein, pour que l'ivresse me regagne. Alors par contre, pour les causes dans lesquelles elle trouve essence, bah forcément, elle crache le feu, elle m'inspire. Alors, ses opposants politiques s'en plaignent. « Oh, votre bouche a incendie muse, on va la museler au museau !» Eh, quand elle était prise, eh bien figurez-vous, son mordant ne lâche pas prise. Alors quand on a une amuse-bouche en bouche, eh bien les enfants vous adorent. Ben forcément, les enfants adorent la bouche qui rit. Alors, aux petits qui sucent leur pouce, elle dit « Pousse, petit maître, au moins qu'ils jouent !» Elle dit « Joue la bouche en cœur !» Et aux grands, qui se croient grands, elle dit « Au grandir !» Mais c'est grandiose quand tu oses dire grand. Alors voilà, ça c'était le début de ma période de poète. Et donc à la fin, je suis quand même retourné voir mon boucher pour le remercier de ce bon tuyau. Et bien sûr, de mon boucher, il était avec sa bouchère, dans sa boucherie, tout rayonnant. Il me dit, monsieur Jacques, ça se voit que vous avez changé d'air, vous avez bonne mine. Ben, je lui dis, oui, monsieur, merci. Mais j'ai compris grâce à vous que l'air que l'on a dépend de l'air que l'on inspire. Et ma muse-bouche m'inspire envie sans cesse. Alors je n'erre plus comme avant dans la vie. Comme un enfant sort de ma bouche une vérité rimée d'hilarité. Alors voilà, j'espère, monsieur Salon et chers auditeurs, que ça vous a mis en bouche cette première sensation de Palais-Royal. Et puis maintenant, enfin vous le saviez déjà, vous savez où vous la retrouvez, à deux pas de la Comédie-Française. Et d'ailleurs, ce tuyau que m'a donné mon boucher, vous savez comment ça s'appelle? Un tuyau qui donne bon air sans plus aucun bas. Et ben ça s'appelle un tuba. Et ça fait un tube à la cadence, et donc ça fait à cœur valsant et tuba à la cadence. Donc voilà, ça c'est un texte de mon premier one-man show qui s'appelait Jacques-Yves Cartier, que j'ai joué pas très loin de Palais-Royal, pas très loin de la Comédie-Française. Donc ça c'est le côté poétique de la langue. Dans la langue, on peut, et alors l'art lyrique pour moi chez Boileau c'est quelque chose de fondamental, puisqu'il permet en fait, par l'exemple, par la joie, par une parole qui interpelle plutôt qu'y endort. Aujourd'hui on entend beaucoup, vous avez parlé des hommes politiques, on entend beaucoup des paroles cuites, froides et répétées. C'est-à-dire vous retirez la tonalité, vous retenez le vivant, vous retirez le charnel de la voix, on ne sait plus qui parle. C'est de la parole cuite, elle ne nous interpelle pas. Alors que la parole qui interpelle, dans laquelle on va chercher du sens, intéressant pour vos hommes politiques de l'avoir en tête, c'est la parole un peu nouvelle, un peu mystérieuse, un peu sincère, un peu authentique. Mais on est beaucoup dans ce monde de l'imaginaire. Alors, ce deuxième one-man show que j'ai fait, il s'appelle Jacquerie du pied.
Il s'appelle ?
Jacquerie du pied. Parce qu'on vit l'époque du pied. Partout, il faut prendre son pied. On dit le pied de l'homme, c'est quand même ce qui fait la supériorité sur la bête. Par exemple, le pied de biche, on peut prendre cet exemple. Hein ? Eh bien, le pied de biche à la biche, ça lui coupe les pattes, que son pied de biche, c'est vous qui l'avez dans les pattes. Et avec son pied de biche, partout, vous pouvez mettre vos pattes, alors que la biche, si elle met ses pattes partout, elle finit dans le piège à loup. Alors les gens, ils se promènent souvent avec des pieds de biche, parce qu'ils se disent, c'est notre façon de prendre mon pied. Alors c'est le monde de l'imaginaire, de « il faut que j'ai des trucs, et donc je vais aller chercher ces toits ». Alors, dans ce monde de l'imaginaire, c'est beaucoup celui des réseaux sociaux. Vous me dites, si c'est trop rapide. Eh bien, figurez-vous, pour prendre mon pied, à un moment donné, moi aussi, je me suis dit, je vais sortir avec une femme qui aime se montrer. Les gens se montrent beaucoup en ce moment. Eh bien, je vous assure, parce qu'il faut se montrer aujourd'hui dans le monde de l'imaginaire. Eh bien, sortir avec une femme qui aime se montrer, c'est pas une sinécure à vivre. Il y en a beaucoup de nos jours, hein, parce qu'une femme qui se montre, moi j'ai beaucoup réfléchi, eh ben, elle vous en fait voir de toutes les couleurs. Et d'ailleurs, c'est très curieux, parce qu'une femme qui se montre, figurez-vous, ça n'est jamais à l'heure. Vous savez pourquoi une femme qui se montre, c'est jamais à l'heure? Je dis ça à tous ceux qui sortent des femmes qui se montrent. Alors, je suis pas sexiste, je fais aussi les hommes, hein, vous allez voir après. Eh ben, une femme qui se montre, c'est toujours en avance ou toujours en retard pour qu'on la remarque. Alors, parfois qu'une femme qui se montre, elle se montre, alors, ben, parfois le temps passe vite. Oup, elle est passée vite, parfois lentement. Et parfois, le temps, il est comme suspendu en l'air. Alors moi, qui suis analyste, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Mais comment c'est possible, comme ça, qu'une femme, elle ait le pouvoir de régler la vitesse du temps? Alors j'ai trouvé la réponse, parce que je suis psychanalyste, puis on peut être un peu potache. Eh bien, ça dépend de la veille, ben, comment vous l'avez remontée. Voilà, j'espère que ça peut passer. Et alors, d'ailleurs, dans la mode de la femme qui se montre, aujourd'hui, la mode pour les femmes qui se montrent, c'est, vous savez, c'est le pantalon qui rentre dans les fesses. Alors j'ai aussi beaucoup...
C'est le pantalon ?
Qui rentre dans les fesses. On en voit beaucoup dans la rue en ce moment, en plus c'est la saison. Et alors pourquoi ?
Oui, tout à fait.
C'est la saison. Alors après,
vous êtes observateur.
Attention, oui,
j'ai observé beaucoup
ah bah, c'est
ce genre
comme
de choses.
C'est comme ça que je trouve mon inspiration, c'est dans les affres de la vie moderne et imaginaire. Et bien alors, j'ai réfléchi aussi à cette question même. Pourquoi les femmes, elles mettent un pantalon qui rentre dans les fesses ? Et bien j'ai trouvé la réponse, il suffit de regarder dans la rue. Et bien c'est pour mettre les hommes à l'arrêt. Mais attention, parce que c'est quand même l'époque de MeToo. Alors d'un mauvais pas, et bien de l'arrêt. Et bien, direct, vous passez à l'arrestation.
Hein ? Il y a l'arrêt, et l'apostrophe et l'autre.
Ah ben, ça, c'est... Chacun l'entend comme il l'entend. Hein ? Et alors, non, mais franchement, avec une femme qui se montre, d'ailleurs, on est au temps d'antenne, et bien, vous, très vite, ben, vous sentez que votre temps est compté. Oui. Alors, ben, par exemple, des fois, vous avez envie d'aller dans votre coin pour vous reposer, et qu'est-ce qu'elle fait, la femme qui se montre ? Elle dit, ben, montre-moi. Alors, elle dit, tu pourrais pas montrer un peu d'affection ? Je lui dis, attendez, vous dites quelque chose pour lui faire plaisir à cette femme qui se montre. Elle me dit, mais tu m'as bien regardé. Alors, ça boucle. Une femme qui se montre, eh ben, très vite, eh ben, vous tournez en rond. Voilà. Alors, moi qui aime bien l'art et la culture, comme vous, monsieur Salon, ben, j'aimais bien l'été aller au festival de Montreux. C'est curieux, le festival de Montreux, c'est en Suisse. Alors, elle me dit, attendez, attends, on va quand même pas aller au festival de Montreux. Tu trouves pas qu'il y en a que pour eux à Montreux? Alors, je pouvais plus aller au festival de Montreux avec cette femme qui se montrait. Alors, du coup, elle me dit, non, mais cet été, on va aller dans mon trou. Ah oui, parce que une femme qui sort d'un trou, souvent, elle aime bien se montrer. Bon, elle n'est pas à croire n'importe quoi. Bon, alors, moi, je vais dire, aujourd'hui, de toute façon, avec l'eau de pomme américaine, là, qui nous en fait voir de toutes les couleurs, c'est pas non plus très rare de voir des hommes qui se montrent. Il y en a quantité sur les réseaux sociaux, tous les jours. Il suffit d'allumer la télé ou de regarder n'importe quel réseau social. Avant, de notre époque, je me mets un peu dans votre époque, de la belle langue de qui parlait, on avait l'homme pressé. Vous savez, le film magnifique avec Alain Delon de Molinaro, c'était un amateur d'art. Il était pressé. Et comme il aimait l'art, il allait dardard. Mais ça, c'était l'époque d'avant. Hein. C'était l'époque de l'homme pressé. Maintenant, on a l'homme qui se montre en pressé. Ça n'a rien à voir. L'homme qui se montre en pressé, il va pas dardard. Non, non, il se montre en pressé de manifester, de donner son avis sur tout et n'importe quoi, de harceler les femmes. Non, ça n'a rien à voir. L'époque de l'homme pressé, ben, l'homme pressé, on le voyait jamais, il travaillait tout le temps. Mais l'époque de l'homme qui se montre en pressé, eh ben, on le voit tout le temps, il travaille jamais. Alors, pour finir quand même sur ce deuxième texte, qui est celui de se montrer, que se passe-t-il dans ce monde imaginaire des réseaux sociaux ? Quand une femme qui se montre, il y en a beaucoup, 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 hein, rencontre un homme qui se montre, devinette. Eh bien, figurez-vous, il joue la montre. Alors, ils ne sont pas prêts de faire l'amour, ils se tournent toujours tout autour. Voilà, donc ça, c'est un peu un deuxième texte dans une deuxième sonorité, qui est ce que je fais dans ce second one-man show, qui est de tourner en dérision le monde imaginaire, le monde moderne. Et alors, c'est pas fini. C'est pas fini, parce que qu'est-ce qui se passe ? Figurez-vous, dans ce monde, on essaie de prendre son pied, ben quand on n'arrive pas à prendre son pied, ça s'est encore passé samedi dernier, parce que l'époque est à prendre son pied. D'ailleurs, ça commence très tôt dans le ventre des mamans. Très tôt, le petit, ben, il donne des coups de pied. Mais il a compris qu'il arrive dans le monde du pied. Parce que de nos meilleurs enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait des footballeurs, des bons donneurs de coups de pied, ou alors des hommes politiques. C'est à peu près le même niveau intellectuel. Hein. Vous pouvez jouer à gauche, au centre ou à droite, ça ne change rien, parce qu'il faut se cramponner, il faut donner des bons coups de pied et des fois des bons coups de boule. C'est ce qu'on appelle l'époque du pied. Et alors, quand on n'arrive pas à prendre son ton pied dans cette époque du pied, on manque d'air. Et qu'est-ce qui vient ? Il vient la guerre, il vient la rage.
Et il comme vient, ça, pardon, répète.
La rage.
La rage.
Quand on ne trouve pas à prendre son pied, on s'énerve. Et alors, c'est un type comme ça, il va chez son dentiste. Il dit, docteur, j'ai attrapé une rage de dents. Ah bon ? Le dentiste lui dit, mais comment ça ? Il dit, mais j'ai trop regardé les chaînes d'information continues. Ils disent que ça ne va pas, ça ne va jamais. Ça va aller de mal en pire. Mais il faut pas se laisser dire. Il faut donner son avis sur tout et n'importe quoi et mordre la vie à pleines dents. Le dentiste dit, oui, c'est vrai ça, c'est ce qu'on entend partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai obéi. J'ai commencé à mordre tout le vivant autour de moi. Et pour commencer, j'ai fait par le plus facile ma femme et mes enfants. Mais vous avez rien fait. Non, mais c'est pour le nombre de fois ils me font enrager. Et ensuite, il avait la rage. Alors, il dit, j'ai mordu dans mon quartier, tout ce qui était dans les parages. Mes voisins, les passants et les commerçants. Et c'était de pire en pire. Très vite, on m'a pris pour un pestiféré. Alors ensuite, forcément, les flics ont voulu me faire barrage. Le brigadier, il m'a dit, monsieur, vous êtes passé au rouge. Je lui dis, attendez, brigadier, moi j'ai un passe-droit, je suis vert de rage. Alors, le brigadier, avec mon vert de rage, il a pris un coup de rouge, et je suis passé. Et alors c'est aux zoos, dans ce monde de la rage, que ma vie a pris un virage définitif. Parce qu'aux zoos, comme il fallait mordre tout le vivant autour de moi, j'ai commencé à mordre les loups, les hyènes et les chacals. Et là, les dents devant ont commencé à me pousser en avant. C'est là que j'ai compris que j'avais chopé la rage. Parce que ce côté orageux, il m'a mis en tête, on peut allumer la télé, de toutes les manifestations, de toutes les contestations, de tous les appels à témoins. Et au tir de blazer, c'est le flic qui prenait l'orage et le désespoir. Alors pendant quelques temps, c'est curieux, quand on a la rage, je me suis senti à mort vivant. Et plus je mordais à mort, et plus j'étais vivant. À croire que la rage, ça rajeunit. Mais le problème, c'est qu'à être dehors par tous les temps, j'ai chopé la crève. J'ai chopé la crève, et une crève terrible. Et comme je suis pas un dégonflé, je m'en suis pris aux éléments. J'ai mordu les arbres, les plantes et la terre. Tout ce qui poussait, quoi. Et alors, à un moment donné, j'étais content parce qu'ils ont commencé à parler de moi à la télévision. Je me suis dit, c'est bon, j'y suis. Et vous savez quand est-ce qu'ils ont commencé à parler de moi à la télévision ? Quand j'ai commencé à mordre la poussière. Alors au début, j'ai cru qu'ils étaient sûrs de moi, mais pas du tout. Ils ont dit, j'ai cru qu'ils avaient vu que j'avais du courage, que je crevais l'écran. Mais non, ils ont dit, il a la crève, il a la rage, l'homme est un loup pour l'homme, il faut l'abattre. Alors là, ils ont mis toute la ville après moi. J'ai couru, et comme j'avais pas de scène où me montrer, j'ai sauté dans la scène. Et j'ai plus rien à mettre sous la dent. Alors j'en suis arrivé à vouloir demander un tout petit poisson. Et vous savez ce qu'il m'a dit, ce tout petit bébé poisson ? Arrête. Arrête, ça fait mal. Alors là, figurez-vous, j'ai pleuré. Il y a comme une révélation qui est venue en moi. Mais j'ai compris, j'ai mal compris les journalistes. Que l'avis qu'il fallait mordre, c'était le leur. Un leurre, leur avis, un mirage. Mais alors, que puis-je faire ? Le dentiste lui dit, si vous avez compris par vous-même. Il faut que vous m'aidiez à stopper ces transmissions qui diffusent la rage dedans. Et opérer le mal à la racine des dents. Monsieur, je suis pas journaliste, ni producteur de films de cinéma, ou propriétaire de chaînes de télévision. Non, monsieur, mais vous recevez les enfants quand ils ont encore leurs dents de lait. Et ils vous font confiance à vous qui êtes grand. Alors je voudrais que vous leur disiez quelque chose quand ils font leur vœu pour la petite souris. Ce sera le mot de la fin. Petite souris, toi qui as le plus d'argent au monde, puisque tu donnes une pièce à tous les enfants, et pour toutes leurs dents, dans la vie, fais-moi souris. Là, vous voyez, plutôt que mort de dents avec mes dents de grand. Et alors, juste un mot comme ça, parce que je vois que vous allez me reprendre la parole. Ce qui compte, c'est ce que je fais en fait sur scène. À tout âge, ce qui compte, c'est pour sourire, c'est de rester bavard. Et je l'ai peut-être été, ça s'appelle le bavardage.
Bien, écoutez, merci pour ce bavardage, parce que j'espère que ça a plu à nos auditeurs. Ça m'a plu.
Merci beaucoup, Monsieur Salon. C'était une première à la radio.
Voilà, et puis ça change beaucoup. C'est très bien, il faut comme ça un peu de changement, n'est-ce pas, Claudia? Bon, Voilà, et je remercie Claudia d'avoir fait cette émission, y compris avec vous. Et je lui dis à la prochaine fois, et je dis à tous nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui ont fui à votre approche. Je ne le pense pas.
Voilà. Je le souhaite.
Alors, que... je vous en remercie.
Merci, Monsieur Salon.
Donc, voilà.
Vous venez d'entendre Le Français en partage, dirigé par Albert Salon, diffusé en direct lundi 1er juin 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.